de boîte. Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Aller rencontrer des spécialistes du déminage dans un ancien arsenal, ça peut surprendre. Arrivé à l'entrée de Tavannes, près de la sortie de l'autoroute, je m'engage dans une grande cour. D'imposantes machines à chenilles sont disposées de part et d'autre de l'entrée, avec de grandes roues dentées rouges sur le devant, prêtes à dévorer le sol. Sur leur carlingue, on distingue le mot « digère ». À ma droite se trouve une grande bâtisse ancienne. Je sonne et j'entre. Je me dirige alors vers une petite réception située sur ma droite. Un employé m'accueille et file chercher mon interlocuteur. Il vient me chercher, m'offre un café et me fait monter d'un étage. Du coin de l'œil, je distingue deux pièces sur ma gauche remplies d'ordinateurs, de câbles et de matériel technique. On m'invite à entrer dans une grande pièce avec un bureau installé en travers face à la porte. Sur une commode, un fourmilier tamanoir en peluche laisse penser pendre sa langue comme s'il cherchait à attraper des fourmis pour son goûter. Après avoir échangé quelques banalités avec le directeur de la fondation, nous embrayons sur le travail réalisé par Diguerre. Alors que les minutes passent, une certitude s'installe, le sujet est passionnant, mon interlocuteur intarissable et le temps pour en parler bien trop court. Frédéric Guerne, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Guerne, vous avez donc 48 ans et ça fait 20 ans que vous avez décidé de vous lancer dans le déminage. Lorsque vous avez suivi votre formation d'ingénieur en électronique à Saint-Imier, est-ce que vous vous imaginiez déjà qu'elle vous conduirait là ?
Absolument pas. Donc ça, c'était un chemin, c'est un jour après l'autre. J'avais vraiment l'envie de m'investir dans quelque chose d'utile, au service de mon prochain, de faire quelque chose qui a de la valeur. Mais alors, le chemin, aucune idée. Je me suis lancé comme ça.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie-là ?
Tout a commencé avec je travaillais, donc je m'étais fait engager comme ingénieur de développement et j'ai un collègue, pendant une pause, qui me parle d'un de ses anciens voyages qu'il avait fait au Vietnam. Au Vietnam, il a vu des démineurs à l'œuvre. Je lui dis, mais attends, le Vietnam, la guerre du Vietnam est terminée depuis longtemps, comment ça se fait ? Et il m'explique, il me parle de la problématique des mines. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que gamin, je faisais à peu près tout péter dans mon quartier. J'étais passionné d'explosifs, d'armes et de choses comme ça. Et ça m'a rappelé des souvenirs et je me suis dit, tiens, là, c'est peut-être quelque chose où je pourrais trouver ma place, essayer d'apporter une solution à ces gens qui travaillent à quatre pattes et puis qui piquent qui creusent dans le sol à la main encore. Voilà, c'est un petit peu les méthodes de Cro-Magnon, on peut faire mieux. En tant qu'ingénieur, je pourrais peut-être leur apporter quelque chose.
Mais donc passionné par tout ce qui explosait, mais alors plutôt pour désarmer que pour blesser.
Bon, en tant que gamin, c'était la technologie qui me passionnait. J'étais vraiment... c'était ça. Ensuite, mon parcours au niveau de ma foi aussi m'a amené à peut-être percevoir le monde différemment, en me disant, bon, voilà, s'amuser, c'est une chose, mais il y a peut-être des choses plus importantes, il y a des gens qui souffrent, on peut peut-être venir en aide. Et c'est cette démarche, en fait, où je me suis dit, là, j'ai peut-être un rôle à jouer, une utilité potentielle.
Alors, depuis votre formation, hein, vous avez dû développer énormément de compétences pour atteindre vos objectifs. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors voilà, donc tout a commencé, j'entends parler de la cause, je me renseigne, je cherche à gauche, à droite à apprendre un peu plus qu'est-ce qu'elles sont ces mines antipersonnelles, où elles sont placées, qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Et un peu par hasard, un jour, j'assiste à une conférence à l'école polytechnique à Lausanne sur la thématique de la détection des mines. Et là, le professeur Jean-Daniel Nicou, qui avait organisé cette conférence, vient vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? J'étais le seul privé à cette conférence. Tous les autres étaient des mineurs, des militaires ou des scientifiques. Et à la fin de la discussion, il dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec moi ? Je suis en train de recruter une équipe. Êtes-vous partant ? Et j'ai dit oui, tout de suite. Et tout a démarré là.
Et justement, avec votre équipe, hein, il vous a fallu 7 ans pour pouvoir sortir votre première machine et devenir professionnel. Pendant 10 à 15 ans, les grandes organisations ne vous ont pas vraiment prise au sérieux. Vous avez dû travailler jour et nuit, parfois jusqu'à 8 mois sans salaire. Est-ce que le jeu en valait la chandelle aujourd'hui ?
Alors actuellement, oui, absolument. Les résultats, nos machines de par le monde ont dégagé des millions de mètres carrés de terrain potentiellement miné. On sait qu'on a bouleversé, mais dans le bon sens, des dizaines de milliers de vies, où on a apporté des accès, on a permis à des réfugiés de rentrer chez eux, on a redonné vie à plusieurs dizaines de villages, on a, voilà, ce qu'on a fait, oui, c'était très très dur, mais maintenant on peut dire oui, ça valait la peine.
Vous avez parlé tout à l'heure de votre foi, est-ce que c'est aussi ça qui vous a permis de tenir dans ces vraiment longues périodes difficiles ?
Alors, sans cet aspect-là de ma vie, jamais, jamais, je n'aurais pu continuer. C'est le petit quelque chose qui vous permet de vous dire, mais votre vie a un sens, il y a peut-être une direction divine dans mon cas, voilà, c'était ce en quoi je crois, et se dire, ben tiens, peut-être que les choses ont une raison d'être. C'est dur, mais on va de l'avant parce qu'en fait, on a un espoir. Et cet espoir vous permet de franchir des montagnes.
Alors, je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Digger, Walt Disney, Harley Davidson et Google ?
Ouh là là !
Alors, le point commun, c'est qu'ils sont tous nés dans un garage, comme votre fondation. Alors, racontez-nous un peu les débuts, justement, de Digger, cette phase garage.
Alors, après mes deux années à l'École Polytechnique Fédérale, je suis retourné comme ingénieur de développement. Mais là, pendant ces deux années, j'ai travaillé dans le domaine du déminage. Mais après, ben voilà, il fallait faire vivre la famille. Je travaillais comme ingénieur de développement. Mais j'avais mis le doigt dans l'engrenage du déminage. J'avais rencontré des démineurs qui m'ont parlé de leurs problèmes, tout simple. Il leur fallait simplement une machine capable de couper la végétation dans des champs de mine. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas, avec ton équipe, fabriquer ça ? Parce qu'en parallèle, j'avais un peu créé une association où on continuait notre travail. Et c'est dans un garage que ça s'est passé. Ça veut dire que on était jusqu'à une trentaine de bénévoles. Et suite à la demande de ce démineur, on a commencé à développer une machine. C'était un petit véhicule blindé de 4 tonnes télécommandé qui avait pour but justement d'aller aider les démineurs dans leur travail. Donc tout a commencé sous cette forme, complètement bénévole pendant 7 années. C'était la période pionnière, assez épique, il faut avouer.
Et donc là, vous avez travaillé jour et nuit, les week-ends, hein, vous me l'avez dit. À cette époque, il existait déjà des solutions de déminage mécanisées sur le plan militaire. Qu'est-ce que vous vouliez ou qu'est-ce que vous apportiez vraiment en termes d'innovation ?
Mais en fait, les démineurs travaillent à la main. C'est extrêmement lent, extrêmement dangereux. Donc ils se sont dit, on va utiliser les méthodes militaires. Donc les militaires utilisaient des machines depuis longtemps. Hein. Au débarquement en Normandie, on a vu des chars avec des fléaux, tout ça. Ils se sont dit, on va utiliser ça. Mais ce n'était pas du tout adapté, c'était trop gros, ce n'était pas fait pour répondre à leurs besoins. Donc en fait, ils ont fait de très mauvaises expériences avec ça. Il y a eu des morts, ça a été très très mal utilisé. Ils sont revenus en arrière, ils se sont dit, non, plus jamais de machines. Ils ont continué à la main. À la main, c'était à nouveau trop lent, trop dangereux. Et là, il y a eu cette fois-ci un nouveau revirement. Ils se sont dit, OK, cette fois-ci, on va refaire avec les machines, mais on va poser un cahier des charges. Et c'est là où les choses sont devenues intéressantes, parce qu'en fait, les démineurs sont venus avec leurs besoins, des besoins en termes de logistique, des besoins en termes de qualité de déminage. Et grâce à en travaillant avec eux, en tant qu'ingénieurs, c'est là où on a pu ajouter une valeur ajoutée très, très importante. On a pu offrir, cette capacité de développement aux démineurs, qui ne c'est pas leur métier d'inventer des machines. Et nous, Digger, on a pu leur fournir, en fait, cette possibilité, sur leurs souhaits, sur leurs besoins, de fabriquer quelque chose qui répondait à leurs critères, suite à leurs expériences aussi.
Et développer quelque chose de neuf, en quelques mots, comment on fait, hein, ça doit être difficile à financer, c'est extrêmement cher d'élaborer des prototypes. Comment, à ce niveau-là, vous avez trouvé les moyens de le faire ?
Un peu de folie, je crois que c'était le seul moyen. On n'avait absolument pas conscience de à quoi on s'attaquait, parce que c'était énorme. Développer une machine à partir de rien, qui est faite pour résister à des explosions, qui est faite pour être télécommandée, des solutions totalement novatrices, on n'avait pas du tout conscience. Donc en fait, c'est beaucoup d'inconscience qui nous a permis de réussir en réalité. On est allé de l'avant. Je me souviens toujours, j'avais 2000 francs quand j'ai commencé, j'ai acheté un moteur tout fier, un moteur hydraulique, et sur ce moteur, on a construit un outil. Avec cet outil, ensuite, on l'a utilisé, des médias nous ont repérés, on a suscité l'intérêt de certains donateurs, on a gagné des prix, de nombreux prix. Ça nous a fait connaître et c'est ça qui a permis à l'argent d'entrer. C'est un mode de financement totalement inhabituel, totalement, je le conseillerais à personne parce que ça ne se fait pas comme ça, mais ça a fonctionné.
Vous êtes installé à Tavannes, hein, loin des grandes instances internationales comme l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge, pourquoi pas Genève par exemple ?
En fait, le déclencheur pour Digger, ce que j'avais au fond du cœur quand j'ai démarré, c'était de dire, dans notre région, dans le Jura bernois, ici, c'est le berceau de la fabrication de montres, c'est un berceau de mécaniciens, c'est dans l'ADN des gens. On aime la mécanique, on aime la technologie ici, et je voulais mettre cette technologie au service d'une cause, humanitaire. Faire des montres, c'est une chose, mais je me disais, tout ce savoir-faire pourrait être utilisé pour sauver des vies aussi. Pourquoi pas ? Offrons-leur ça. Et voilà, on est parti sur ce critère.
Alors on y reviendra tout à l'heure, mais avant cela, Nadia est justement allée visiter vos locaux à Tavannes en compagnie de Thomas Dalla Piazza, responsable recherche et développement. On écoute son reportage.
Sortie de boîte.
Le développement des machines et puis le début de tout, ça se passe ici, c'est le bureau du développement. C'est ici qu'on fait toute la conception mécanique des machines, mais aussi de la partie électronique embarquée et logiciel aussi de gestion de la machine. Donc on commence par des esquisses grossières de comment sera la machine, des estimations des poids, des dimensions, et puis on affine toujours le design de chaque partie pour finalement aboutir à des procédures de fabrication, des fichiers pour la fabrication, pour la découpe laser, etc.
Pour créer une machine à la base, vous vous référez sur quoi ? Sur la mine qu'il faudra déminer, sur l'endroit, sur le terrain ?
Alors, il y a beaucoup de critères, il y a des critères logistiques aussi, mais on a surtout construit ici, au travers des 20 ans d'existence de Digger, beaucoup d'expertise sur à quoi doit ressembler une machine de déminage efficace. Elle doit résister à des explosions jusqu'à 8 kg d'explosifs, elle doit être efficace pour le déminage des mines antipersonnelles, et puis elle doit aussi, pour des raisons logistiques, pouvoir entrer dans un conteneur maritime, par exemple. Elle doit avoir suffisamment de puissance pour assurer un certain rendement dans le terrain. Donc tout ça, c'est des contraintes qui initient en fait le design de la machine, qu'il faut considérer. Voilà, donc là on se déplace dans cette partie des installations de Digger. Ici c'est vraiment l'endroit où on gère toute la production et le stockage des différentes pièces de la machine. Ici, on se trouve dans le stock des différentes pièces de la machine. Donc, le travail du bureau technique, ce n'est pas uniquement de fournir des plans, c'est aussi de gérer des listes de pièces et des listes d'approvisionnement. Donc ici, on a une certaine surface de pièces dans la machine. Ici, c'est l'endroit où on gère toute la production de la machine. Donc, il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est approvisionnement des pièces, planification des ensembles, et puis lancement des ordres de fabrication, gestion de l'équipe de fabrication. Alors voilà, ici c'est en fait une des activités principales du commencement de la fabrication d'une machine. En fait, c'est l'assemblage des tôles pour former les géométries et des différentes parties structurelles de la machine. Donc on reçoit ici la machine complète sous forme d'un tas de tôles découpées au laser, et il convient de les assembler, les souder ensemble pour former le châssis, les bras, le train de chenille, etc. Voilà, une fois que les pièces principales de la machine sont soudées, avant d'être vraiment terminées, donc il y a un sablage qui est fait, une peinture, on vérifie que tout se monte bien, on fait un espèce de montage à blanc ici, dans l'atelier de montage où sera en fait aussi exécuté l'assemblage final de la machine avec tous les composants qui viendront à l'intérieur.
Depuis le moment où les plans sont validés et jusqu'à ce que la machine soit ici terminée, ça prend combien de temps ?
Alors ça dépend beaucoup de l'historique pour cette génération de machines. On s'est beaucoup appuyé sur les développements qui avaient été faits pour la génération d'avant. Donc la partie conception, ça allait relativement vite. Je dirais à peu près une année au bureau technique. Et puis jusqu'à ce qu'on ait sorti la première machine, il faut compter 4 mois pour la fabrication.
Sortie de boîte.
Alors Frédéric Guerne, là on a entendu l'aspect développement, fabrication de ce qui se passe chez vous, hein, mais vous m'avez aussi dit quand je suis venu vous trouver qu'il n'y a pas que ça, vous m'avez dit les gens n'imaginent pas ce qui se passe dans ces murs, en parlant des visites que vous recevez, qu'est-ce qui se passe aussi en termes de négociations à Tavannes ?
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Digger est une fondation reconnue d'utilité publique, donc bien sûr on développe, hein, on fabrique des machines, on les vend, mais notre statut de reconnu d'utilité publique nous permet d'accéder à des bailleurs. Et ça, c'est très important parce qu'on travaille dans un domaine humanitaire. Il n'y a jamais assez d'argent, forcément. Donc, on n'a pas des gros investisseurs qui sont forcément intéressés derrière. Donc, on recourt à des bailleurs. Et en tant que fondation, on peut justement accéder à ces bailleurs. Ça peut être la DDC, par exemple, l'aide humanitaire suisse. Ça peut être le canton de Berne, le canton de Bâle. Voilà. Il y a beaucoup de Genève, par exemple, très actifs. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir monter des projets. On ne se contente pas de fabriquer des machines et de les vendre, mais on va travailler avec les gens qui sont sur place dans les pays. Ça peut être des ONG, ça peut être des gouvernements. Donc voilà, régulièrement... je peux aller, vous pouvez me voir à table dans un restaurant ou autre, je suis peut-être avec un général, je suis peut-être avec un ambassadeur, c'est assez particulier.
Et vous le dites, hein, cette double casquette humanitaire, en même temps industrielle, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous distingue de vos concurrents ?
Alors absolument, c'est unique. C'est unique au monde. Le modèle de Diguerre dans le domaine du déminage est absolument unique. On a construit ce modèle un petit peu sans s'en rendre compte, parce qu'on voulait l'objectif pour nous, la finalité humanitaire était fondamentale. Mais on a lié ça très fortement à un processus industriel, d'où qui vient de mon background, hein, de ma formation, de notre expérience. Et ce mélange, en fait, était sans s'en rendre compte, on a créé un mélange qui n'existait pas, mais qui est finalement la bonne solution, qui est très efficace.
Alors, en 20 ans, vous avez vendu environ 15 machines. Ça peut sembler peu, mais vous me le disiez, vous ne vendez pas que des machines.
Voilà, quand on parle d'une vente d'une machine chez Diguerre, il ne faut pas le considérer comme une simple vente, parce qu'en réalité, derrière, il y a tout un projet. Quand on parle d'une vente d'une machine, en réalité, c'est tout un projet qui est monté, qui implique des bailleurs, qui implique des gens sur le terrain. La machine va rentrer dans un système, un projet complet auquel on a généralement participé. Donc, en fait, c'est 15 projets. Et là, avec notre taille, 15 projets en 20 ans, c'est quelque chose d'énorme.
Alors vous l'avez dit, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Au niveau éthique, quels sont les financements ou les clients que vous acceptez ou ceux que vous rejetez ?
Alors là, on peut se perdre en tergiversation longtemps. Hein. Vous avez plein de gens qui font des études là-dessus. Est-ce que ce terrain, s'il sera restitué, quelle sera sa finalité ? Et blablabli, blablabla. Quels seront ses impacts politiques ou autres ? On n'a pas la taille pour se lancer dans ces grandes discussions. Nous, on doit prendre en fait un modèle très simple, se dire, voilà, est-ce que ce que nous allons faire va sauver des vies potentiellement en enlevant des mines ? Et ça, c'est le critère qu'on s'est fixé. Ça veut dire qu'on travaille avec des ONG humanitaires, bien sûr, on va travailler avec des démineurs commerciaux, et on va même travailler avec des militaires. Tant qu'ils enlèvent des mines, et tant que ça se fait dans un contexte non offensif, en fait, on va sauver des vies, potentiellement. Et nous, on a mis le critère là, parce que le reste, ça devient des discussions où on n'en finit pas. Et notre travail, c'est de sauver des vies, c'est pas de faire des grosses discussions.
Mais des fois, vous avez aussi des demandes surprenantes.
Ah oui, donc, voilà, comme je vous racontais, une fois, j'ai eu un pays, donc c'était carrément une autorité d'un pays, qui me demandait si, est-ce que je pouvais lui fournir des machines pour enlever les mines et des machines pour poser des mines. Donc là, je lui ai répondu très poliment que je n'entrais pas vraiment en matière dans ce domaine-là.
Alors, quand on vous parle d'évolution du déminage, hein, vous dites aussi que c'est un milieu qui ronronne. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
En fait, voilà, on se bat contre les mines depuis 20 ans. On fête les traités d'Ottawa qui ont eu lieu depuis 20 ans. Il y a beaucoup, beaucoup d'ONG qui sont impliquées. Et malheureusement, il y a une dynamique parfois dans le monde purement humanitaire qui n'est... Moi, je viens du monde industriel. Dans le monde industriel, c'est l'argent. Et si quelque chose ne rapporte pas, on l'arrête. Et si quelque chose rapporte, on lui donne du pouvoir. On va le dynamiser. Dans l'humanitaire, les critères sont parfois compliqués, complexes. Il y a des intérêts un peu différents, des fois un peu lourdingues. Quand vous travaillez avec des immenses organisations, il y a des critères. Ce n'est pas forcément l'efficacité qui est le critère numéro un. Et ça, c'est quelque chose contre lequel, quelque chose qui me rend assez nerveux. Je dois avouer que moi, ce qui compte pour moi, c'est cette efficacité. Mais voilà, on se bat et on essaye de motiver ça.
Vous disiez aussi, hein, au niveau des dons, souvent les campagnes de dons, on montre une démineuse sur le terrain qui fait ça à la main, on se dit c'est dangereux, on a envie de verser de l'argent, mais finalement une machine c'est froid, on n'a pas envie de payer pour, et finalement la machine c'est souvent la meilleure solution.
Voilà, donc en fait vous avez beaucoup d'organisations humanitaires qui vont être dépendants des dons de privés, et pour obtenir des dons, qu'est-ce qu'on utilise ? C'est l'émotion, le message émotionnel, mais voilà, on va mettre en avant des gens qui se sacrifient, qui prennent des risques, parce que ça touche l'émotion, mais finalement, les machines vont être beaucoup plus efficaces, vont coûter bien moins cher et surtout ne vont pas mettre des vies en danger. Mais ça, c'est plus difficile à exploiter en termes de messages émotionnels. Et donc, on doit faire face à ça ou dire aux gens, mais communiquer le fait que peut-être c'est plus performant d'utiliser des machines, même si c'est un peu moins émotionnel, mais ne sacrifiez pas l'efficacité pour le message émotionnel.
Dans les développements, hein, depuis les terrains à déminer évoluent sans cesse, hein, par exemple avec les méthodes utilisées par le groupe État islamique qui piège tout sur son passage de façon quasi industrielle. Quels sont les défis à relever par rapport à ces missions qui sont de plus en plus compliquées ?
Alors, un des défis principaux, bon, déjà, ça évolue. Les mines classiques ont été posées dans les années 70 et maintenant, on a des engins piégés, des engins qui sont de plus en plus sophistiqués, qui utilisent des capteurs extrêmement sophistiqués. Et aussi, un des critères qui devient de plus en plus difficile pour nous aussi, c'est que le contexte dans lequel on travaille devient, au niveau sécuritaire, toujours plus difficile. Maintenant, les humanitaires deviennent des cibles. On n'a plus affaire à des conflits ouverts, on a affaire plutôt à du terrorisme. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'un conflit ? Est-ce qu'un conflit est réellement terminé un jour, si on parle de terrorisme ? Donc on va devoir s'impliquer dans des zones où le risque sécuritaire peut être relativement élevé, alors qu'il n'y a pas vraiment de conflit qui est présent. Donc voilà, on est amené à travailler dans des zones où ce n'est plus vraiment la sécurité. On doit jouer là-dessus, on doit être très très prudent.
Et un autre domaine où on parle de sécurité, mais qui n'a rien à voir avec le déminage, c'est l'horlogerie. On en parle avec Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
C'est un des domaines auxquels on ne pense pas forcément quand on évoque l'horlogerie, l'assurance. Pourtant, cet aspect est essentiel pour les entreprises horlogères. En 1921, 17 horlogers des montagnes neuchâteloises ont fondé la compagnie TSM, basée à La Chaux-de-Fonds. C'était presque une évidence, selon l'actuelle directrice communication et marketing, Sandrine Areski.
Ils créent de belles, de magnifiques pièces, des choses extrêmement de valeur. Valeur pas seulement au niveau coût, mais au niveau d'investissement de temps, de l'artisanat. Et évidemment, à l'époque, notre région était aussi prospère dans l'horlogerie. Et la région comptait beaucoup, beaucoup d'entreprises horlogères. Et donc, c'est vrai, la question était judicieuse, je pense, à l'époque.
Aujourd'hui, la compagnie compte des succursales à Bienne, Lausanne, Genève et Zurich, mais son siège est resté à La Chaux-de-Fonds. Au fait, pourquoi ce nom TSM ?
Transport Société Mutuelle.
Donc si on comprend bien, cette compagnie est spécialisée dans l'assurance du transport des marchandises, dont les marchandises horlogères.
Les assurances sont vraiment destinées au transport, tous les biens en mouvement. Après, nous avons évidemment du stock et transit, foire exposition ou des événements comme ceci. Mais principalement, c'est vrai que ce sont les assurances transport, tous les biens en mouvement.
La compagnie a été fondée par des horlogers, mais qui sont les clients actuels ? On retrouve Sandrine Areski.
Alors plus les fournisseurs qui gravitent autour de l'horlogerie, mais évidemment c'est toujours un petit peu compliqué parce que l'évolution fait que nous n'avons plus des liens directs avec l'horloger. Un peu le regret de TSM. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, donc plus dans les sous-traitants, fournisseurs horlogers et tout ce qui touche justement au bien en mouvement de l'assurance transport.
Du coup, quel pourcentage représentent les clients liés à l'horlogerie ?
Je dirais à peu près 30% aujourd'hui, mais tout confondu. Et puis bien sûr, après TSM a d'autres branches qui ont été développées par la suite. L'assurance est dans le transport, l'assurance transport naturellement, mais c'est vrai qu'on a développé après coup quelques produits, etc. Donc on gravite beaucoup autour de l'horlogerie, avec tout ce qui fait le monde horloger, évidemment, et toutes les petites fournitures horlogères, etc., mais pas uniquement.
Merci à Sandrine Areski pour toutes ces explications.
Pile à l'heure.
Et de l'horlogerie, on repasse au déminage. Diguer fête ses 20 ans cette année, Frédéric Guerne. Quels sont vos projets pour ce 20e anniversaire, ou alors quels sont vos défis pour cette année marquante ?
Alors, il y a des projets, on va essayer de marquer l'événement, mais voilà, on a des ressources et du temps qui est limité, mais voilà, on aura M. Parmelin qui viendra cet automne, ça c'est un scoop, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc il y a cet aspect festif, et ensuite, les défis, c'est simplement de continuer, de perdurer, d'aller de l'avant, de relever les nouveaux défis, comme on parlait tout à l'heure, en Syrie, en Irak, on a affaire à d'autres situations, et là, il y a encore malheureusement beaucoup de travail.
Et vous l'avez dit, hein, c'est très compliqué aussi de trouver, on n'imagine pas, mais vous le dites, sur tous les projets que vous chercher, finalement, il y en a 95% qui échouent. C'est une très petite part qui aboutit.
Voilà, on démarre des études de projet, on a des demandes qui viennent d'un peu partout, mais on travaille dans un contexte où c'est des pays, c'est des situations compliquées. Vous démarrez un projet, la guerre redémarre. J'ai eu ça tout récemment. Et puis, on doit abandonner. Ou des partenaires qui sont moyennement sérieux, il faut aller sur place, il faut s'assurer de leur sérieux. Donc, beaucoup de démarches pour finalement peu de projets qui aboutissent en définitive.
Eh bien, en tout cas, de notre côté, on vous souhaite encore de longues années à faire évoluer le déminage. Frédéric Guerne, je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation Diguerre, basée à Tavannes. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup à vous.
Et puis, si vous souhaitez réécouter cette émission, vous la retrouverez en intégralité sur notre site internet d'ici quelques minutes. La semaine prochaine, Sortie de boîte vous fait boire la tasse en compagnie d'Anthony Jenner, qui propose des gobelets en carton pré-dosés en café. D'ici là, excellente soirée.
Sortie de boîte.